Marie-France Bocassa, amoureusement fille à papa.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est quoi la vie de château quand on s'appelle Marie-France Bocassa? C'est comment la vie de princesse quand on est l'un des 56 enfants nés de Jean Bedel Bocassa, tyran flamboyant, autoproclamé empereur de Centrafrique en 76, déchu et exilé en France dans les années 80. Mille et une nuits de questions dans la tête de notre invité qui nous introduit dans les coulisses de son enfance au bras d'un père hors norme et d'une mère taïwanaise. Ballotté entre la terre ocre de Bangui, les pensionnats suisses et les grilles d'un château français. A feuilleté pendant presque une heure en sol majeur, au château de l'Ogre, l'autobiographie courageuse et amoureuse de Marie-France Bocassa. Bonjour princesse.
Bonjour Yasmine.
Vous m'avez répondu, hein?
Oui.
Non, je me demandais si vous alliez répondre.
J'allais vous le dire après.
Alors votre père, il a eu... apparemment, 56 enfants, puisqu'il les comptait, hein, c'est ce que vous racontez.
Oui, 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 tout à fait.
Il n'en a reconnu que 39, et sur les 39, je crois que vous êtes une des seules à prendre la parole pour raconter l'envers du décor qui a été le vôtre. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter ?
Ce qui m'a décidé à raconter, c'est pour plusieurs raisons. Je pense qu'avant tout, j'étais pas à l'aise avec ce que les gens pouvaient penser de nous. Le fait d'être retourné plusieurs fois en Centrafrique et de voir ces gens penser que nous étions riches, nous vivions dans l'opulence. J'étais vraiment gênée, dérangée, surtout que je découvrais un pays dans lequel on pouvait voir plein de misère, surtout au niveau des enfants qui couraient dans les rues, qui n'avaient pas de parents. Donc voilà, ma première démarche d'écriture a commencé par là. Voilà, j'étais en contradiction avec ce que les gens pouvaient dire et je voulais répondre au monde, leur répondre la vraie vie que nous avons eue, en tout cas nous les enfants de Bocassa.
Histoire folle et tourmentée en fait, hein, que la vôtre. Sur la scène politique internationale, on entend parler de ce Bocassa qui arrive donc au pouvoir en 65, après avoir renversé le premier président centrafricain David Daco. Bocassa, qui règne de façon autoritaire, se proclamant président à vie en 72, avant de se sacrer empereur en 77. Bocassa, qui se rapproche de Kadhafi, un peu trop d'ailleurs, au goût de cette France qui a la main sur cette Centrafrique pour ses intérêts personnels. Bocassa despote, Bocassa responsable de massacres d'écoliers, Bocassa mégalomane, Bocassa napoléonien, Bocassa lâché par la France, Bocassa en exil en Côte d'Ivoire d'abord, puis en France, dans les Yvelines, dans son fameux château d'Ardricourt. Et c'est là, Marie-France Bocassa, dans les coulisses de cette histoire folle, que vous allez passer une partie de votre enfance royale.
C'est comme conte de fées.
Alors, est-ce que vivre dans le château d'Ardricourt avec Papa Bocassa, c'était la vie de château, Marie-France ?
Alors, c'était, oui, la vie de château, mais en tout cas pas de la manière dont on aurait pu s'imaginer en tant qu'enfant.
On va le raconter, vous êtes né en 74 à l'hôpital de Bangui, donc en Centrafrique. Votre père à ce moment-là est président. Et votre mère ? Qui est votre mère ?
Qui est ma mère ? Alors ça c'est une bonne question, je ne sais pas tout à fait moi-même, je sais qu'elle est originaire de Taïwan. J'ai eu quelques retours justement depuis la publication de l'ouvrage sur ce qu'elle est pu devenir. Je sais qu'elle vit dans le sud de la Taïwan. Ma mère, je ne l'ai pas connue, je ne la connais pas jusqu'aujourd'hui. J'ai une photo d'elle, mais bon, je la vois de profil.
Mais qu'est-ce que vous savez de leur histoire entre...
Leur histoire, je sais qu'ils se sont rencontrés donc très récemment. Mon père, à l'époque, me disait tout autre chose. Me disait que ma maman avait été tombée amoureuse de lui, il l'avait choisie.
Elle avait 15 ans.
Voilà, elle avait 15 ans à l'époque et par la suite, j'ai découvert que non, c'était une jeune fille qui travaillait en tant que serveuse dans un restaurant, donc à Taïwan. Mon père était parti en déplacement pour un voyage d'affaires. là-bas. Et donc il a vu cette jeune femme et finalement il l'a choisie et il l'a emmenée de force. Donc elle n'avait pas son mot à dire. Elle est arrivée sur les terres de Centrafrique, il me semble en 1971 ou 72, je ne sais plus trop. Il l'a rencontrée, il l'a emmenée en Centrafrique, il lui a imposé ses règles à lui. Elle a eu donc deux enfants de cette union. Donc au bout de peut-être quelques mois après ma naissance, elle est repartie à Taïwan.
Chassée ?
D'abord, elle a décidé de son propre gré, en fait, de partir pour quelques temps et revenir nous chercher. Et puis mon père, finalement, l'a chassée et en contrepartie, il lui a remis quand même 40 000 $. C'est ce dont j'étais informée par le consulat, en fait, de Taïwan.
Il faut dire que votre père plaidait véritablement pour le métissage.
Oui, il disait que les plus beaux enfants du monde, ce sont les métisses.
Parce qu'il a eu des femmes qui venaient de tous les coins du monde. Hein.
De tous les coins du monde, mais je pense qu'avant tout, il aimait, comme il dit, les jolies femmes. Il en a aimé quelques-unes. Alors bizarrement, il en a aimé plutôt les métisses que les africaines. Mais je sais qu'il portait un amour, un grand amour en tout cas pour l'Occident, pour l'Europe.
Quelle a été votre vie à vous, Marie-France Bocassa, avant d'atterrir dans ce château des Yvelines ?
Donc j'ai commencé mes premières années dans un pensionnat en Suisse, un pensionnat religieux. Ensuite, à l'âge de 5 ans, je suis partie en Côte d'Ivoire en tant que réfugiée politique avec notre père et une partie des frères et sœurs les plus jeunes. On était une dizaine. Et donc on a grandi en Côte d'Ivoire avant d'arriver en France.
Arrive 1983 et là, vous devez quitter Dardar, la Côte d'Ivoire, pour la France. Vous avez 9 ans. Et c'est la mort dans l'âme que vous devez abandonner votre immense poupée dans l'Indénier, en
oui,
Côte
tout
d'Ivoire.
À fait. Oui, j'avais une poupée qui était assez grande, à qui je parlais souvent. Et ça a été très dur. Alors ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, se dire, bon, c'est qu'une poupée, c'est que du matériel.
Non, vous n'aviez pas de mère.
Voilà.
Alors c'est compliqué, hein,
oui,
la question maternelle.
Non, c'est très compliqué, la question maternelle. Et puis, d'autant plus que mes frères et sœurs qui étaient là, donc plus ou moins avaient tous connu quand même leur maman, en tout cas, elles les avaient entreaperçues. Moi, j'avais rien, j'avais que ma grande sœur. Mais ma grande sœur se raccrochait à moi, donc moi, je devais me raccrocher à quelque chose. Et mon père, n'étant pas très attentif par rapport à nous, j'ai trouvé une poupée. Donc c'est avec elle que j'échangeais, que je parlais.
Et donc, vous arrivez derrière les grilles de ce fameux château d'Ardricourt, dans les Yvelines, en France. Et là, vous racontez bien que vous êtes les seuls noirs du coin et que ça se passe pas très bien entre les habitants d'Ardricourt et les Bocassa, au début en tout cas.
Oui, tout à fait. Parce que Ardricourt était un village très très calme, d'après ce que m'ont rapporté les habitants. Et c'est vrai que l'histoire de Bocassa, l'affaire Bocassa, les diamants et dont on sait aussi un ancien chef d'État, faisait beaucoup de bruit et ce village tranquille...
Sans parler de cannibalisme
voilà.
Aussi.
Oui, donc on a fait face à toutes ces insultes-là. Ça a été quelque chose de très difficile de s'intégrer, mais par la suite, on y est arrivé.
Enfin, vous y êtes arrivé parce que vous êtes une battante.
Oui.
Vous avez fait beaucoup d'efforts, en fait, pour essayer de faire croire que vous aviez une vie normale.
Oui. Oui, tout
c'était
à fait.
C'était ça votre truc.
Oui. Mon truc, c'était de masquer, de faire semblant. Et d'ailleurs, après la publication de cet ouvrage, il y a beaucoup de camarades qui ont grandi 30 ans, 40 ans après, et qui sont venus me dire, en tout cas, finalement, ils m'ont cité quelques exemples en disant, on ne comprenait pas pourquoi tu nous demandais toujours du pain à la cantine et tu nous disais, c'est pour donner aux oiseaux. Et à la lecture de ton ouvrage, on a compris que c'était pour toi et tes frères. Et si on avait su, on vous aurait tendu la main.
Car en fait, à l'intérieur de ce château, avec vos nombreux frères et sœurs, avec Philomène, qui est l'une des épouses de votre père, qui est la marâtre, on va dire, et qui joue vraiment ce rôle, vous vivez comme dans une prison. Et d'abord, vous êtes prisonnier, je dirais, des humeurs changeantes de votre père.
Oui. Alors, notre père changeait très fréquemment d'humeur dans la journée. Les seuls moments où il pouvait être un petit peu apaisé, où ça dure un peu plus longtemps, c'est quand il était face à son fameux Chivas. Son whisky. Et puis, oui, il changeait souvent d'humeur. Il passait de la colère aux larmes, parfois, parce qu'il nous racontait son enfance. Il revenait très souvent sur son enfance en tant qu'enfant orphelin. Donc on voit que ça l'affectait beaucoup, il nous parlait aussi beaucoup de sa carrière de militaire, d'avoir été trahi par le gouvernement français de l'époque. On voyait que ça lui faisait beaucoup de mal et ensuite il était triste et il passait tout à coup dans une rage, comme si c'était nous, ses enfants, en fait, les coupables. Coupables qui se retrouvent aussi lui-même enfermé dans cette grande demeure, surveillé, comme séquestré aussi avec nous. Et finalement, c'est nous qui subissions toutes ces colères-là. Les nuits à la belle étoile sont devenues de plus en plus fréquentes. Mes autres frères et sœurs n'y échappaient pas. Celles-ci se succédaient, non pas à cause de notre père, mais parce que nous étions de plus en plus solidaires de ceux qui étaient si injustement mis à la porte. J'avais pris soin de placer des vêtements et des couvertures dans un grand sac, en plastique, caché dans les bois. Au petit matin, après une nuit de sommeil agité au milieu des herbes et des feuilles, nous nous débarbouillons avec le jet d'eau extérieur. Nous attendions le réveil de nos frères qui nous jetaient nos cartables par une fenêtre. Nous partions à l'école, le sac sur le dos et le ventre vide, comme si de rien n'était.
Voilà une des pages de votre livre Au château de l'ogre, Marie-France Bocassa pour RFI et en sol majeur. Ça révèle quelque chose d'assez incroyable, c'est votre situation, donc de petite princesse, entre guillemets, très particulière, parce qu'effectivement, vous allez à l'école avec chauffeur, avec protection policière, puisque oui. Votre père avait peur d'un attentat. Un père qui peut aussi laisser un pourboire de 500 francs à une caissière dans un supermarché.
Oui, tout à fait.
Donc un faste comme ça, visible à l'œil nu. Et puis de l'autre côté, à la maison, privation, rationnement. Et vous devez, vous nous le racontiez un tout petit peu il y a deux minutes, trouver des stratégies véritables pour manger à votre faim.
Oui, oui, oui. En tout cas...
Quelle stratégie vous trouviez par exemple ?
Les stratégies, bah, ça a été les vols... au supermarché, ça a été de se faire inviter à par la suite chez des amis et à l'heure du goûter, quand tout le monde partage, on met dans les poches. Par exemple, pour les vêtements, comme on n'avait pas, enfin, moi j'avais pas grand chose, c'était de dire à mes camarades que ce qu'ils portaient était beau, en espérant qu'ils nous le donnent.
Car en fait, les biens de la maison, si j'ose dire, et l'alimentation en particulier, étaient gardés par une clé dans la poche de votre marâtre.
Oui, tout à fait. Toutes les armoires, en tout cas de la cuisine, étaient fermées sous clé. Et tout était compté chaque jour par la marâtre qui veillait à ce que rien ne disparaisse, rien ne soit pris. Tout était rationné, proportionné, contrôlé.
C'est un mauvais conte de Grimm, hein, je dirais, hein,
oui,
Marie-France
oui.
Bocassa. Vous en venez donc à développer aussi des véritables stratégies de survie. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de la fameuse caisse en bois.
Alors la fameuse caisse en bois, c'est une caisse qui était arrivée avec une voiture à l'intérieur. Et à force de dormir dehors...
Une grosse voiture donc que votre père avait reçue.
Oui, une grosse voiture parmi ses 11 voitures. Il avait 11 véhicules qui étaient garés dans le parc du château. Donc il y avait une des caisses qui était là et finalement on en avait assez de dormir dehors. Donc j'avais demandé à 2-3 de mes frères et sœurs de m'aider, qu'on puisse l'emménager.
Pourquoi vous dormiez dehors ?
L'aménager, c'est quand on était punis, pas forcément moi j'y allais par solidarité, hein, pour ne pas les laisser seuls et parce que j'avais ce côté un peu rebelle, vagabonde. Et donc on avait emménagé cette caisse en bois pour en faire une maison, jusqu'à ce que notre père découvre... de la lumière dans cette fameuse caisse et décide de la brûler sous nos yeux pour nous montrer l'exemple en disant que c'est lui qui contrôle. Donc ça a été comme ça pour cette caisse en bois, ça a été comme ça pour les vêtements, ça a été comme ça pour tout, mettre le feu et nous montrer que c'est lui qui dirige.
Est-ce que vous aimez entendre la voix de votre père, Marie-France ?
Alors, est-ce que j'aime l'entendre ? Non, je ne suis pas forcément à l'aise.
C'est compliqué. C'est presque plus compliqué que de raconter ce que vous avez vécu avec lui.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui parce que j'ai réagi par rapport à beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'ai essayé de protéger ma famille, mes frères, mes sœurs, comme je pouvais. Et depuis l'écriture de cet ouvrage, je me sens sortie de tout ça parce que j'ai eu l'impression de vivre dans le déni pendant des années, de vénérer un père. Alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être. Donc aujourd'hui, c'est très très dur. Du coup, non, je ne suis pas à l'aise avec la voix de mon père aujourd'hui.
Eh bien, vous allez mettre de la distance puisque vous êtes arrivé à le faire avec ce livre autobiographique. J'avais prévu pour En sol majeur qu'on écoute effectivement ce moment de vie historique. On va le partager ensemble, tranquillement.
Oui, hein, d'accord.
C'est donc... ce retour sur un Bocassa qui prête serment sur la Constitution, on est en 77, au moment où il devient Bocassa Ier.
Sa Majesté, Bocassa Ier, empereur de Centrafrique.
Nous, Bokassa Ier, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain.
P comme papa.
Marie-France Bokassa, dans votre tête d'enfant, là, c'est vraiment à la petite fille que je m'adresse. C'était quoi le métier de votre père ?
De mon regard à moi, j'ai eu l'impression que c'était un chef de tout. Voilà.
De tout.
Voilà, de tout, de la France, parce que finalement, il parlait au nom de la France, de l'Afrique, parce qu'à l'époque, je faisais pas encore trop la distinction entre tous les pays d'Afrique.
Le chef du monde, un peu.
Le chef du monde.
Alors, j'imagine que vous avez regardé, même si c'est difficile, ça vous est sans doute arrivé au moins une fois dans votre vie, de regarder ce couronnement afro-napoléonien qui a été raillé à l'époque, je ne reviens pas dessus. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand, aujourd'hui adulte, vous voyez votre père dans sa cape écarlate doublée de fourrure d'hermine blanche, assis sur son trône monumental avec le symbole de l'aigle napoléonien? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces images ?
Alors, ce que je ressens, je suis pas à l'aise déjà avec ça. J'ai découvert cette vidéo il y a 2-3 mois. Je sais qu'elle existait. Je ne voulais pas la regarder ni la visionner pendant des années. Tout au contraire de ma famille, je les entendais, leur voix résonnait avec fierté. Ils ont toujours été très, très fiers de notre père. Moi aussi, je suis fière, mais d'une manière différente.
Qu'est-ce qui vous plaît pas?
Tout cet événement, en fait, ce grand couronnement. À se dire que bah, dans ce pays, à l'époque, beaucoup de gens, en tout cas, vivaient dans la misère. Et quand j'ai entendu dire qu'un tiers du budget était investi dans ce couronnement, ouais, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas, pour une journée festive, faire ça. Donc, mon point de vue, c'est que j'aurais souhaité éventuellement qu'il fasse ça dans les traditions, en tout cas, de son pays, plutôt que de vouloir copier sur la France en faisant une cérémonie à la napoléonienne. Parce que j'ai trouvé que c'était ridicule.
Vous parlez de ridicule, est-ce que, pardon de vous poser la question comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une forme de folie ?
Ben si, il y a une forme de folie, mais ce que je découvre là, enfin ce que j'ai découvert dans cette vidéo, c'est ce que j'ai pu en tout cas voir tout au long de ma vie. Donc cette folie, elle existe.
À l'intérieur.
Voilà, de l'intérieur comme de l'extérieur. En tout cas, il y a un point commun, c'est-à-dire que moi, dans mon ouvrage, je m'intéresse beaucoup plus à l'homme, au père, pas au chef d'État, et je l'ai toujours dit, la politique, je ne m'y intéresse pas forcément, mais oui, il y avait de la folie, il y en a toujours eu.
Vous étiez sa préférée, hein, d'après ce que je lis, Marie-France Bokassa.
Oui.
Et vous avez donc pu avoir des moments d'intimité, un peu avec lui, comme vous le disiez tout à l'heure, il vous a raconté un petit peu qui étaient vos ancêtres.
Oui, oui, oui.
Et là, vous retrouvez le sourire.
Oui. Oui, oui, parce que j'aimais l'entendre conter ses histoires et l'amour qu'il avait en tout cas pour son village, pour ses ancêtres. J'arrivais à comprendre un petit peu quand il m'expliquait pourquoi les gens disaient de nous que nous étions des cannibales. Il m'avait raconté cette fameuse histoire avec le singe dépecé qui avait cette corpulence d'homme.
C'était quoi cette histoire ?
Cette histoire, c'était que apparemment lors d'un dîner d'affaires en Centrafrique, lorsqu'il était encore au pouvoir, il y avait exposé dans une chambre froide des singes sur des crochets, comme on peut voir ici en France des bœufs. Et ils étaient dépecés et puis quelqu'un avait été rapporté que mon père mangeait les hommes. Donc ça, la propagande s'était diffusée un peu partout. Et c'est vrai que ça nous faisait très très mal. Et finalement, quand il nous racontait sa version, en tout cas à lui, ça me consolait. Je me disais, finalement, mon père n'est pas un cannibale.
Cela dit, il vous a vraiment raconté de qui vous descendez ?
Oui, il nous disait qu'il descendait des pygmées et que les pygmées, c'était une tradition, en tout cas chez eux, dans ce village, dans cette forêt équatoriale, c'était de tuer leurs ennemis et de les manger pour en prendre leur force.
Mais vous avez aussi eu un grand-père héroïque ?
Oui, nous avons eu un grand-père héroïque. Il manifestait justement contre l'esclavage en Centrafrique. Il a été pendu sur la place publique d'un village en Centrafrique, devant les yeux de mon père et de sa maman, Marie Okoho.
Donc par les colons français.
Par les colons français, oui, oui, oui. Et pour mon père, ça a été un grand choc toute sa vie. Et justement, aujourd'hui, je pense que si je pardonne, comme je dis, je suis consciente que notre père aurait dû, en tout cas mon père à l'époque, aurait dû être suivi et accompagné, déjà rien que par rapport à son traumatisme d'enfant, mais par rapport aussi à son traumatisme des guerres qu'il a faites. Et par la suite, mettre cet homme à la tête d'un pays, mais on en a vu les conséquences après. Alors certes, c'est vrai que pendant 14 ans, je reconnais ce travail qu'il a pu faire d'accomplissement, de devoir par rapport à la Centrafrique, mais ce côté de folie, ce côté mégalomane, c'est celui aujourd'hui que pour moi je n'accepte pas et je ne peux pas défendre, comme le souhaiterait en tout cas l'ensemble de ma famille.
Alors la voix de votre père, on va la retrouver en sol majeur, tranquillement, puisqu'on a les larmes coulées déjà.
Oui.
Elles peuvent revenir, il n'y a pas de souci. C'est ce moment où il est assigné à la résidence en France et où il s'en prend à Giscard d'Estaing, Bokassa.
Au mépris de la Constitution française, de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Monsieur le Président de la République française, en poursuivant la politique africaine de Giscard, vous considérez donc le Centrafrique comme terrain de chasse gardé appartenant à la France. Monsieur le Président de la République française, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un pays étranger militairement occupé, placé sous votre autorité, et l'indépendance d'un État souverain reconnu par l'ONU et par l'OUA ?
La voix de Bokassa pour en sol majeur. Bokassa, votre père à vous, Marie-France Bokassa. Alors la politique ne vous intéresse pas évidemment quand vous êtes enfant, même si vous avez compris que votre père était le chef peut-être du monde.
Oui.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous intéressez, et je ne demande pas forcément de réponse, parce que ça c'est juste, est-ce que vous vous intéressez à ce qui a lié la France à l'Afrique en général et la France à la Centrafrique en particulier ?
Oui, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse que maintenant, parce que finalement, je me suis rendu compte que durant toutes ces années, depuis mon enfance, j'ai dû me battre pour exister. Donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et je commence seulement à m'y intéresser.
En fait, vous, vous avez vécu dans les limbes d'un affect tortueux, avec donc un père que vous devez quitter, qui doit rentrer au pays pour être jugé et être condamné à mort dans un premier temps. Cette succession d'événements est pour vous, enfant, une accumulation de violences folles, puisque d'un côté, on a l'image comme ça d'un cheptel d'enfants sans mère.
Oui.
Et puis de l'autre, on a un père omniscient, imprévisible et surmédiatisé. Donc, la question, elle vous appartient, elle est tellement intime, mais on va la poser en sol majeur malgré tout.
D'accord.
Est-ce que vous arrivez à aimer ce père ?
Mais oui, oui, j'arrive à l'aimer malgré tout. Et si vous me demandez les raisons pour lesquelles j'arrive à l'aimer, c'est comme je dis, je ne connais pas ma mère. Et la seule référence que j'ai eue, c'est mon père. Et chez lui, je décèle toujours cette fragilité. La fragilité d'esprit d'enfant, c'est-à-dire dans un corps d'adulte. Et la vie l'a montré, en tout cas sa carrière l'a montré, il a toujours été très influençable. Comme il disait, il a été trahi, mais j'ai eu la chance de faire une belle rencontre, donc qui est Monsieur Bruno Fulini, qui est historien, et avec qui j'échange beaucoup, avec qui j'essaie de comprendre l'histoire de l'Afrique et de la France, donc de la France-Afrique.
Donc vous y êtes.
Donc j'y suis, je suis au cœur de tout ça d'ailleurs, ouais, aujourd'hui.
Et donc il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent effectivement, qui sont même extérieurs à votre père. Vous parliez de traumatisme tout à l'heure de votre père, mais de peut-être tous ces dirigeants africains qui ont vécu des choses difficiles liées à la grande histoire, la colonisation,
oui, oui, oui,
etc.
Oui.
Vous
oui,
y êtes.
On y est. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi de tout ça. Tous ces grands hommes qu'on met en place, en tout cas que la France a pu mettre en place à l'époque, ben on sait que voilà, ça n'a jamais été très facile ni pour eux, ni pour le peuple non plus. Maintenant, moi, si je devrais ajouter quelque chose, c'est de me dire qu'il faudra déjà que tous ces chefs d'État commencent par se desservir et servir leur peuple plutôt que se servir.
Donc, moralité, votre père n'est pas un ogre.
Moralité, mon père, dans mon regard d'enfant, oui, pouvait être un ogre parce que cette vie de château sur laquelle j'ai fait mes pires cauchemars et qui m'ont poursuivi en tant qu'adulte. Donc, mon père, avec mon regard d'enfant, était un ogre. Aujourd'hui, c'est un homme avec ses forces, ses faiblesses. Et comme on dit en Afrique, ben, il repose en paix.
En tout cas, voilà ce que vous écrivez, Marie-France Bokassa, de votre père, lorsqu'il se retrouve en prison et condamné à mort.
La Bible est rapidement devenue son seul refuge. Chacune de ses lettres racontait un passage du Livre Saint. C'était son moyen de résister et de survivre à des conditions de vie indignes. Il disait s'être mis entre les mains de Dieu. Le Créateur serait son seul juge et lui seul déciderait de son avenir. Sa barbe et ses cheveux, devenus poivre et sel, étaient coupés de près. Une toge blanche ornée de son pendentif en or, représentant l'aigle impérial centrafricaine, remplaçait son habituel costume. Je le trouvais très beau dans ses nouveaux atouts.
Dès 1868, quelque part dans le Grand Ouest, il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste. La porte du saloon claque encore, dehors le vent fouette la poussière. Puis il galope vers son sort sans jamais regarder derrière. Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit? Est-il sûr ou incertain? Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son destin? À quoi ressemble son avenir, une évidence ou un mystère? Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de lumière. En 2008, quelque part à Paris, j'ai démarré la voiture pour échapper à ce temps pourri. La porte du café tremble encore, dehors la pluie fouette le bitume. À chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la brume. Puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est une course contre la montre ou une course contre la peur. C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur droit devant. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant. Vers les siècles, mais c'est toujours la même chevauchée.
As-tu peur que la route s'achève?
Mais cette course est insensée.
As-tu mis un nom sur toutes les lèvres? Les lèvres.
Grand Corps Malade et Calogero sur RFI avec de l'ombre à la lumière. Pourquoi vous avez choisi cette chanson en sol majeur, Marie-France Bokassa?
J'ai choisi cette chanson parce qu'elle parle d'elle-même, de l'ombre à la lumière. Quand on écoute ses paroles, ça me ressemble un petit peu. C'est ne pas se retourner, aller de l'avant. Toujours aller de l'avant.
L'ombre, c'était l'enfance?
L'ombre, ça a été l'enfance. Non, ça a été aussi ma vie d'adolescente, de femme. Parce que tous ces traumatismes, vous les gardez en vous et vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Et puis finalement, ben, un jour, vous décidez de mettre tout ça derrière et d'aller de l'avant. Donc la lumière, elle est aujourd'hui.
Notre invitée Marie-France Bokassa, fille de qui vous savez et qui assume ce qui vous savez.
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous?
D'où je suis, ce que je réponds. Alors, c'est une question qui est très, très compliquée. Ouais, là, c'est très, très dur à répondre, en fait.
Parce que donc, si on résume, vous avez des ancêtres pygmées, en tout cas des origines centrafricaines, une mère taïwanaise et une vie française.
Ah oui. Alors, pour ce qui est de la mère taïwanaise et de mon côté asiatique, c'est quelque chose que j'ai un peu banni pendant toutes ces années. D'ailleurs, je m'en veux un peu aujourd'hui. Je me suis plutôt référée à cette culture africaine. Et ensuite, la France, mon pays en tout cas d'accueil. Et puis aujourd'hui, enfin, depuis 2-3 ans, tout a basculé et je me sens française, avec des origines centrafricaines. Voilà, je me sens métisse en fait.
J'allais vous demander ce que vous évoquez justement le mot visa.
Oui, ça a été un parcours très très difficile pour pouvoir obtenir ma nationalité française. Parce que je pensais que d'avoir un père militaire français, ben, j'avais des droits et je devais justement l'obtenir facilement. Et ça n'a pas été du tout le cas, puisque notre père avait été déchu de sa nationalité. Je n'étais même pas au courant. Donc il a fallu que je fasse une demande un peu comme enfin, tous les étrangers qui viennent en France.
À la majorité ?
À la majorité. Avant ça, j'étais ballottée un petit peu entre les préfectures, les administrations, parce que j'avais des récépissés de 3 mois, et ensuite des titres de séjour. Et puis, ben, pour travailler, c'était difficile, parce que ben, vos cartes expiraient. Donc, ouais. C'était toujours un peu la course contre la montre. Non, ça a été très difficile. Donc oui, visa me fait penser à ça. Et visa me dit que pour aller en Centrafrique, quand j'étais française, eh ben, il fallait demander un visa. Finalement, tout est très ambigu.
En tout cas, aujourd'hui, vous avez envie de tout conserver, finalement, de votre boîte à trésors, avec tous ces...
Oui,
avec
oui,
tout ce feuilleté comme ça d'identité qui ont été soit vécues, soit pas vécues, etc. Vous êtes plus dans « je garde tout ».
Oui, je suis plus dans « je garde tout » et je continue à poursuivre et construire avec, parce que finalement, tout ça est très riche.
Vous avez deux langues maternelles déjà. Vous avez...
Oui, j'ai deux langues maternelles. J'ai le français et le sango.
Vous avez ça et puis vous avez aussi... Vous avez des codes occidentaux par ailleurs, on le sent hein, quand on vous lit. Mais vous avez aussi un palais qui ne dit pas non au manioc et aux saveurs centrafricaines.
Ah oh oui, ça oui.
Qu'est-ce que vous aimez cuisiner qui vous rappelle l'enfance et Bangui?
Qu'est-ce que j'aime cuisiner? J'aime cuisiner beaucoup de plats à base de manioc. Manioc, riz, la viande un peu boucanée, voilà, toutes ces odeurs un peu fortes. Oui.
Ça a été transmis quand même.
Oui, ça a été transmis. Mais disons que mon cerveau a commandé de prendre les bonnes choses. Toutes les bonnes choses.
C'est ce que vous avez pris à papa, ça, ce cerveau qui commande
voilà, c'est
malgré
ça.
Tous les obstacles.
Voilà, c'est ça. C'est
vous pensez
ça,
que vous lui ressemblez un peu?
Oui, je pense que je lui ressemble un peu et je pense que parfois même il m'arrive d'avoir un petit peu de ses travers, mais je me dis que tout ce mauvais côté, je le veux pas.
Alors, je ne sais pas si vous écoutez RFI, ça vous arrive ou pas?
Oui.
Alors RFI, en tout cas, si vous nous écoutez depuis peu, depuis votre livre peut-être, vous savez qu'on revient régulièrement sur ce qui se passe à Bangui, sur les tensions interreligieuses et autres. J'ai vu que vous aviez un frère, Jean-Serge Bokassa, qui faisait de la politique hein,
oui,
là-bas.
Tout à fait.
Vous le suivez un peu?
Un petit peu. Je le suis moins. Pour des raisons qui me sont propres, voilà.
La question c'est, est-ce que vous avez la force de vous intéresser au sort de la Centrafrique aujourd'hui?
La force, je l'ai toujours eue. Et oui, non, je suis en bonne voie. Disons que je m'y intéresse de plus en plus, je m'enrichis de plus en plus. Toutes ces expériences m'emmènent à quelque chose et je pense qu'à un moment donné de ma vie, il va falloir que je prenne des décisions.
Ah,
on ne peut pas rester que spectateur, on transmet des messages. Mais ça veut dire que l'écriture m'a emmené vers une réflexion. Cette réflexion était de se dire, je fais passer aujourd'hui un message aussi quelque part d'humanité, de prise de conscience. Mais je vous cache pas que je pense qu'un jour, je retournerai aussi moi-même déposer ma pierre à l'édifice et me dire que si je peux être utile, en tout cas pour mon pays d'origine, ce serait... pour moi, quelque chose d'accompli et de faire les choses de manière différente de celles que mon père a pu faire, celles que mon frère a pu faire.
Voilà. Mettre vos pas dans ceux de votre père d'une autre façon, mais la chose politique en Centrafrique, vous ne dites pas non.
Voilà, alors mettre mes pas dans ceux de mon père, non. Me servir de cette force qu'il a eue, oui. Je me dis pourquoi pas, et je pense que c'est très envisageable, et c'est envisagé.
Bon, ouais. Alors si vous êtes dans cette démarche conscientisée, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui, est-ce que vous avez pu être en colère, nourrir une colère vis-à-vis de cette France qui à l'époque a lâché votre père, de cette France qui peut avoir des intérêts sur le continent tout à fait discutables ou dommageables ?
Alors bizarrement, j'ai jamais nourri de colère. J'ai toujours essayé de comprendre, de trouver des raisons pour lesquelles ceci ou cela n'a pas été fait, ou ceci ou cela a été pensé d'une telle manière. Et puis à la fois, on se dit qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc c'est très difficile d'emmener de la colère. Peut-être qu'avec le temps, oui, j'aurai de la colère, parce qu'aujourd'hui j'apprends, je suis dans l'apprentissage, je suis dans l'écoute, l'observation. Donc la colère, peut-être qu'elle viendra après, par rapport à la France.
En tout cas, vous êtes une petite héroïne, Marie-France Bocassa. Car parmi vos frères et sœurs, certains sont passés par l'assistance publique. Vous, à force de détermination, vous êtes passé entre ces gouttes-là. Vous vous êtes évadé de ce fameux château d'Ardricourt, vous le racontez dans votre livre. Vous avez été adopté par une Française et vous êtes même devenue l'amoureuse de son fils. Donc oui. Ça, c'est une autre histoire que vous racontez un peu. Bref, l'amour et la vie ont été possibles. Mais est-ce que... votre vie aujourd'hui, c'est quoi ? Vous vivez où ? Et vous faites quoi ?
Je suis commerçante, je suis restée vivre aux alentours de ce fameux château emblématique d'Ardricourt. J'y ai construit toute ma vie de femme. Voilà ma vie aujourd'hui.
Mais pourquoi vous êtes restée dans ce lieu si chargé,
Alors, Ardricourt ? C'est une bonne question. Parce que j'avais toujours eu conscience que Ardricourt était mon seul repère. Et au contraire de mes frères et sœurs qui sont partis il y a une dizaine, une quinzaine d'années, moi j'avais besoin de rester là pour comprendre, continuer à comprendre, observer. Aujourd'hui, je crois que j'ai compris.
C'est le lieu du crime, si j'ose dire.
Voilà, voilà, en quelque sorte, c'est comme un lieu de crime où il faut qu'on décèle un petit peu tous les indices pour essayer d'emmener à quelque chose, à se dire pourquoi. Avoir en tout cas les réponses du pourquoi. Et aujourd'hui, je pense que je commence à comprendre pourquoi tout ça est arrivé, en tout cas par rapport à mon enfance, par rapport à notre père, même si ce n'est pas une vie que j'ai eue, mais quand on voit mon neveu qui s'imagine une vie dorée et alors qu'on ne l'a jamais eue, je me dis peut-être que j'aurais été celle-là, j'aurais continué comme eux à me dire que j'ai une vie de princesse, alors que ça n'a pas été le cas du tout.
Le château d'Ardricourt, il appartient à qui aujourd'hui ?
Alors, le château d'Ardricourt, à ma connaissance, il a été racheté par un groupe d'avocats associés. Aujourd'hui, il a été restauré, je l'ai visité à plusieurs reprises. Il y a des cérémonies en fait, de mariage qui se passent à l'intérieur. Et finalement, voir tous ces mariés, ces jeunes mariés heureux, si seulement une seule fois, ils auront pu imaginer que... l'autre envers du décor, en fait.
A comme au nom du Père.
Avec un petit peu de sango, donc cette autre langue maternelle qui est la vôtre, Marie-France Bocassa, est-ce que cette langue, vous la parlez encore ?
Non, je ne la parle pas. Et l'ensemble de mes frères et sœurs étaient bilingues de ce côté-là, parlaient en tout cas le dialecte de chez nous et le français. Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'y suis jamais arrivée, je ne l'ai jamais parlé le sango. Au grand désespoir de mon père, quand il me parlait en sango, parce qu'il nous parlait tous en sango, donc j'aurais dû normalement parler le sango, et je lui répondais en français, et il me disait toujours « Pourquoi tu ne me réponds pas en sango ?» Et je lui disais d'un pied ferme en tapant le pied par terre « Mais moi je suis française et je suis en France, donc je te parle français. » Voilà.
Vous faisiez un sacré tandem père-fille, les deux.
Oui.
Il est sans doute difficile, presque impossible, j'imagine, de ne pas être vue comme la fille de Bocassa. Est-ce que c'est au fond ce que vous cherchez ?
Forcément, les gens font le lien directement. Je suis la fille d'eux. Alors, j'ai été très mal à l'aise à un moment donné parce que je me suis dit, mais qui suis-je ? en fait, qui je suis. Donc, certes, oui, je suis la fille de mon père, mais j'ai ma propre identité aussi. Aujourd'hui, je pense que oui, c'est ce que je revendique un peu, c'est de se dire qu'on peut porter un nom, un grand nom, enfin, en tout cas, un nom qui est très connu. Mais à la fois, il faudrait que les gens comprennent qu'on a besoin d'exister par nous-mêmes. Parce que sinon, on a du mal à... On est toujours obligé de se référer à cette personnalité forte sur laquelle, voilà, on est... toujours basé. Donc aujourd'hui, j'essaie de m'émanciper un peu et du père et aussi de l'unité familiale, qui est une unité très lourde, ne serait-ce que par rapport aussi à cette culture africaine, qui est une culture très dure, où par rapport au respect, en tout cas des anciens, on dit toujours qu'il faut réfléchir par la voix d'un ensemble et pas par soi-même. J'ai toujours dit à mon père, j'existe, je suis une personne et je réfléchirai toujours par moi-même. Tu peux me guider dans ce que tu souhaites que je sois, mais je serai moi-même. Et le message que je peux porter, en tout cas, à tous les Africains aujourd'hui d'Afrique noire, puisque voilà, c'est en quelque sorte mon peuple, c'est de se dire, réfléchissez par vous-même, arrêtez de réfléchir en unité, battez-vous pour vos propres idées.
Vous êtes déjà à la tribune politique, hein ? Pas loin. Oh, je sens qu'il y a du training dans l'air. Alors, j'ai vu qu'il y avait un de vos frères qui avait décidé de ne pas s'appeler Bokassa, de changer de nom, mais pas vous.
Non, malgré que je sois confrontée, que j'ai toujours été confrontée à toutes sortes de critiques ou de compliments ou de remarques, non, j'ai jamais voulu changer de nom. Parfois, l'idée m'a traversé l'esprit, mais j'aurais été très mal à l'aise avec un nom qui n'est pas le mien. Ce nom, Bokassa, pour moi, il était puissant. Il était puissant et cette puissance, je l'ai toujours retrouvée dans ce caractère que j'avais à toujours être obligée de me battre, et je dis bien obligée, hein, parce que c'est pas un choix de vie, celui de se battre.
Ouais. En tout cas, même si la politique ne vous intéresse pas, Marie-France Bokassa, et on a compris pourquoi, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot apparemment, il y a une certaine Michelle Obama qui vous intéresse. Donc là, on est très loin, derrière votre écran, c'est à la télé que vous la voyez.
Oui, oui, oui.
On va revenir sur son discours intitulé « Enough is enough ». C'était au moment de la campagne présidentielle aux États-Unis en 2016, au moment où elle revenait sur les propos sexistes de Trump, des propos qui avaient fuité.
This is not something that we can ignore.
Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer sous le tapis, comme n'importe quelle anecdote d'une triste campagne présidentielle. Il s'agissait d'un individu puissant, parlant librement et ouvertement de son comportement de prédateur sexuel. Quand j'entends ça, je le ressens très personnellement. Les commentaires honteux sur notre corps, le manque de respect à nos ambitions, à notre intellect, et l'idée qu'on peut faire ce que l'on veut à une femme, c'est cruel. C'est effrayant. Et en vérité, ça fait mal. Soyons clairs, ce n'est pas normal.
La voix en sol majeur de Michelle Obama sur RFI et son combat notamment contre les agissements d'un Trump sexiste et limite harceleur. Alors ça vous parle, Marie-France Bokassa ?
Oui, ça me parle. Ça me parle parce que je pense, au travers des paroles que je viens d'entendre de Michelle Obama, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu aussi. Par rapport à un des frères aînés qui avait une forte tendance justement... au harcèlement, en quelque sorte.
Oui, vous a kidnappé un jour. Hein.
Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, je ne veux pas en dire plus, parce que
mais vous vous
c'est
sentez,
très délicat, en tout cas.
Vous vous sentez, à l'instar de Michelle Obama, féministe ?
Oui, 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 je me sens féministe aussi.
C'est drôle, on va refermer en sol majeur sur cette remarque, sur le fait que je vous ai demandé s'il y avait des figures qui vous inspiraient, qui vous ont aidé à vous construire. Bon, évidemment, à l'ombre de Papa Bokassa, évidemment, la réponse est toute trouvée. Mais loin de cette boutade, parce qu'il y a de la boutade aussi là-dedans, vous m'avez cité deux noms de femmes, en fait. Vous m'avez parlé de Lady Di et de Michelle Obama. Oui. C'est-à-dire que vous vous identifiez quand même davantage aux figures féminines, malgré l'ombre de ce père et de cette icône masculine écrasante.
Oui, tout à fait, parce que je fais partie de celles qui pensent que derrière tout homme, il y a une femme. C'est pas pour faire de la discrimination ou quoi que ce soit, mais je pense que derrière tout grand homme, il y a toujours une femme.
Merci Marie-France Bocassa. On va se quitter après avoir rappelé que vous publiez donc chez Flammarion au Château de l'Ocre.
Merci à vous, Yasmine.
Une belle autobiographie. On va se quitter avec une certaine Birdie. C'est une chanteuse britannique. Pourquoi elle ?
Pourquoi elle ? Parce que je trouve que quand elle a commencé ses débuts sur la scène, c'était une jeune fille brillante. Et la mélodie de ses chansons, en fait, me porte encore dans l'écriture. D'ailleurs, j'envisage d'écrire un second ouvrage et je me laisserai porter toujours par la mélodie de Birdie, parce que je trouve qu'elle est brillante.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh,
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Toute la fine équipe, Caroline Filliette, Laura Pinto et Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec une rediffusion autour d'Anna Moy. À la semaine prochaine. Tout à l'heure.